Qui d'entre vous aimait les romans d'aventure? Ouais, quand même quelques-uns, c'est bien. Au début des vacances d'été, c'est toujours mon plaisir de pouvoir aller en librairie, choisir mon roman d'aventure qui va m'accompagner pendant toutes les vacances d'été. C'est souvent une sortie familiale, on se réjouit avec Clarisse, dire « Ah, cette fois on va à Payot, et puis on va s'acheter un livre pour nos vacances ». Alors pour cette année, j'ai choisi un Alexandre Dumas. J'aime bien un petit peu cette époque classique, comme ça, c'est sympa, c'est frais, c'est léger. Avec des amitiés viriles, des duels, des intrigues. Et je me dis, ben, si j'aime l'aventure pour l'été, j'aimerais vous proposer de vivre une aventure avec moi, ce dimanche et puis les deux prochains. J'aimerais vous emmener vivre une aventure de l'héros. Une aventure où il y a des intrigues, des rivalités, de l'héroïsme. Une aventure où, par contre, Dieu est absent. À première vue. Mais une aventure où il tient aussi tous les fils de l'histoire. Une aventure où le personnage principal n'est pas un héros, mais une héroïne. Ah ! C'est au cœur du pouvoir de l'Empire perse que je vous invite à me suivre durant 3 prédications. Vous l'aurez peut-être compris, je vous proposerai 3 messages tirés du livre d'Esther. Et nous verrons ensemble comment cette femme, cette reine, est entrée dans son appel et s'est consacrée à la mission que Dieu lui a confiée. Alors, bien plus que des prédications, j'aimerais vous inviter à vivre aussi cette aventure, à répondre à l'appel que Dieu a pour nous. Alors, ce ne sera pas simplement écouter une belle histoire, ce sera peut-être aussi nous mettre en mouvement pour vivre cette aventure magnifique. C'est une chose de lire une aventure, c'est une chose d'en vivre une autre, une. Pour poser le décor, les 3 prédications que nous allons faire se concentrent sur le cœur du livre d'Esther. L'histoire d'Esther se situe en gros 450-500 ans avant Jésus, à Suse, dont la capitale de l'Empire perse. Dans cette ville-là habitait une communauté juive. 4 personnages principaux ponctue le récit. 2 gentils, 2 méchants. Il y a Esther et son oncle Mardoché. Ça, c'est pour les gentils. Pour les méchants, il y a le roi Assuérus, qui est plutôt un ivrogne facilement influençable. Et puis, il y a Aman, son premier ministre, le méchant tapis dans l'ombre. Le début du livre montre 2 événements. D'abord, Esther devient reine. Deuxième événement, Mardoché dénonce un complot contre le roi, ce qui sauve la vie au roi. Ensuite, on voit que le premier ministre acquiert davantage de pouvoir auprès du roi et l'ordonne même aux serviteurs qui se tenaient à la porte du roi de se prosterner devant lui. Tous le font, sauf Mardoché, qui ne le fait pas, qui refuse. Alors Aman s'en offusque et il va même vers le roi demandant de signer un décret pour éliminer tous les juifs. Un seul refuse de se prosterner devant lui. Du coup, tous les juifs doivent y passer. Le roi, souvent ivre et influençable, signe ce décret. C'est dans la tristesse et les lamentations que nous retrouvons la communauté juive à Suse, à partir du chapitre 4, que je vous invite à lire. Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis il sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations.
beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait,
la reine Esther en fut toute bouleversée.
Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac,
mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Hatak, l'un des eunuques que le roi lui avait attaché à son service. Elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Hatak rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et qu'il lui fasse un rapport, en le chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché : tous les serviteurs du roi et la population de ses provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict : la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre d'or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre : ne t'imagine pas que ta position au palais te permette d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors Esther fit répondre à Mardoché : va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Jusqu'ici notre lecture. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? Ce chapitre 4 montre un tournant décisif. Le décret de mort contre les Juifs a été publié largement. Mardoché est dans le deuil, Esther est au palais, et le peuple de Dieu est menacé d'extermination. Pourtant, dans ce contexte hostile, un espoir commence à se dessiner. Cet espoir, je vous propose de l'aborder en 3 points. Le premier, Dieu nous place là où il souhaite nous utiliser. Est-ce que vous avez remarqué la progression du récit ? Au début de notre lecture, Esther ne semblait même pas mesurer le danger qu'encourait son peuple. Elle était dans le palais royal, dans son confort, tout allait bien. Et c'est au verset 4, lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qu'il se passait, c'est là qu'elle était toute bouleversée. Au début de notre lecture, elle ignorait tout ce qui se passait. Et pourtant, à la fin, Esther est prête à courir le risque d'aller voir le roi sans y être invitée. Et elle risque sa vie pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce retournement se fasse ? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a aucun miracle dans ce livre. Tout paraît banal et normal. Il n'y a pas une révélation du ciel, il y a un Dieu qui agit comme avec Élie où il y a le feu qui tombe. Mais il y a simplement un dialogue. Un dialogue entre Esther et Mardoché. Un dialogue durant lequel Mardoché va aider Esther à changer de posture. à prendre de la hauteur sur sa situation. Il va l'informer des dangers qu'encourt son peuple et lui montrer que de sa position de reine, elle peut faire changer les choses. Au tout début du récit, Esther était dans son confort, dans le palais, peut-être un palais qui ressemblait plus à une prison dorée quand même. Elle ne voyait pas les enjeux. Mardoché va l'aider à voir la mission que Dieu a pour elle. Et dit notamment cette phrase importante au verset 14. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Dieu t'a placé là pour une mission bien précise et c'est peut-être maintenant le temps pour toi d'entrer en scène. Mardoché aide Esther à faire la différence entre occuper une place, par exemple être assis un dimanche matin sur une chaise d'église, et à prendre part à un projet bien plus grand qui la dépasse. Par exemple, participer pleinement au culte. Mardoché va aider Esther à découvrir son appel. Et ce qui est intéressant, pour les amateurs de coaching, c'est que ce n'est pas Mardoché qui va donner à Esther son appel, mais c'est Esther qui va trouver son appel et Mardoché va quand même orienter un petit peu, il va poser des questions, mais il ne va pas dire « Esther, voilà ce que tu dois faire. Voilà la situation telle qu'elle est, voilà la position que tu as, comment est-ce que tu vois ça ?» Il initie chez Esther un processus qui va lui permettre de découvrir son appel. Quand elle aura toutes les infos en main, « Ah ben oui, peut-être qu'il faut que j'aille chez le roi. » Mardoché ne donne pas d'impératif. C'est Esther qui prend cette décision toute seule. La décision de sauver son peuple, même si cela lui coûte la vie. Alors pour illustrer ça, j'aimerais vous prendre l'image d'une clé. Ça, c'est le panier que j'ai chez moi à l'entrée. On entre et puis on a un panier où on pose nos porte-monnaies, nos clés, puis tout ce qu'on ne sait pas où ça va et qu'on n'ose pas jeter. Je ne sais pas si vous en avez un comme ça chez vous. J'ai une lampe de poche, une charnière d'armoire. Voilà, tout ce que j'ai chez moi que j'ose pas jeter, je l'ai pris tel quel. Ah tiens, un petit billet de train pour le Puy Midi pour les enfants. Des mouchoirs. Et puis, tout au fond, par exemple, une clé. Je ne sais pas à quoi sert cette clé. Je n'ose absolument pas la jeter. Si tout d'un coup, je découvre à quoi elle servait. Changement de verre. Tac. Pause fraîcheur. Merci. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir un panier comme ça à votre entrée avec des clés que vous ne savez pas à quoi ça sert ? Ouais, ok, bon, bah c'est bien, vous allez comprendre l'image. Ces deux petites clés orphelines, je ne sais pas tellement comment elles sont arrivées là non plus, ni ce qu'elles permettent d'ouvrir. Et peut-être à l'image de ces clés, nous avons aussi l'impression d'être orphelins, simplement placés dans une situation, dans ce panier, dans une situation professionnelle, une situation familiale, une situation relationnelle, placée même dans un quartier, où on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que je suis là ? Je pense que ma clé se pose cette question. Qu'est-ce que je fous dans ce panier ? C'est ce qui m'amène au deuxième point, où Mardoché cite cette phrase « pour des circonstances comme celle-ci ». Damaris nous a parlé de saison, je vais reprendre ce mot qu'elle n'aime pas trop. Différentes saisons dans la vie d'Esther. Il y a celle d'être présentée au palais royal, il y a celle de devenir reine, et celle de sauver son peuple, de prendre position. Il y a des saisons dans notre vie où Dieu nous appelle simplement à apprendre, à grandir, à nous préparer. Et puis tout d'un coup, il y a un moment où tout converge, où nos questions trouvent des réponses, où c'est l'occasion de passer à l'action. Tout ce qu'Esther a vécu par le passé prend soudainement sens. Elle est placée là en vue d'une mission particulière. Et c'est là tout le début de l'aventure. Ma pauvre petite clé dans ce panier, je vais l'enlever parce que ça fait un peu chenille. Mais bon, c'est pas filmé. Je laisse juste la clé. Ma pauvre petite clé qui était dans ce panier prend de la valeur que lorsque je saurai à quoi elle sert. Je sais ce qu'elle ouvre et elle aura une valeur. Peut-être même une certaine valeur que je ne la mettrai plus dans ce panier, mais à mon porte-clés. Des fois, dans des situations de vie, on sent parfois des moments opportuns où on réalise que Dieu nous a placés dans une situation particulière pour que nous en fassions quelque chose. On a l'impression qu'on est dans une situation de vie où on se dit « mais là, il y a quelque chose qui va se passer, qui doit se passer ». Je ne sais pas exactement quoi, je ne sais pas comment, mais je sens que je dois faire quelque chose. Et c'est ce qui m'amène à ce troisième point. C'est le moment de s'engager, c'est le moment de partir à l'aventure. Et ce troisième point, je l'ai appelé... Ah merci, parce que j'ai oublié la télécommande. Merci Arthur d'être efficace. C'est un engagement qui coûte. Entrer dans son appel et marcher à la suite de Jésus n'est pas une situation toujours très confortable. Mardoché ouvre les yeux d'Esther lorsqu'il lui dit « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvée. Si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance viendront. Tandis que ta famille et toi mourrez. » Il y a un danger qui est là. Donc ne rien faire peut s'avérer aussi dangereux. Des fois, c'est pire de ne pas décider que de décider une mauvaise décision. Esther opère un changement radical lorsqu'elle a cette information. Même si elle ne fait rien, elle peut mourir. Et finalement, elle décide de se mettre en route. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Alors pour Esther, il lui a fallu un Mardoché pour lui ouvrir les yeux. Il a fallu quelqu'un pour lui montrer son appel. Et parfois, nous aussi, on a peut-être besoin de quelqu'un pour nous ouvrir les yeux, pour nous montrer ce pourquoi nous sommes faits, quelqu'un qui nous aide à prendre de la hauteur. Parce qu'il faut quand même le dire que le confort peut nous faire oublier notre appel. Et je crois que c'est ce qui est arrivé pour Esther. Dans le confort de ce palais, elle a oublié ce que les Juifs pouvaient vivre dehors. On a aussi besoin d'un regard extérieur pour nous mettre en mouvement. Si je reprends ma clé, une fois que je sais ce qu'elle peut ouvrir, ben, il n'y a plus qu'à l'utiliser. C'est une chose de savoir ce qu'elle peut ouvrir, mais il faut que je puisse l'utiliser ensuite. Et puis c'est sûr que ma petite clé, si j'ai découvert qu'elle ouvrait quelque chose d'important, ben, je vais dire, cette clé, je vais la garder sur moi. Et ma pauvre petite clé va finir à mon trousseau, au chaud, au froid, elle va s'user, elle sera moins confortable que dans son petit panier. Elle va peut-être même se salir un petit peu, quoiqu'elle est déjà pas plus... Ouais, elle a servi, visiblement. Mais ma clé aura trouvé sa valeur, parce qu'elle saura ce pourquoi elle a été faite. Elle a été conçue pour une chose bien précise, elle peut ouvrir une porte, peut-être deux, mais elle ne peut pas toutes les ouvrir. Elle a une mission bien particulière. Et je crois que Dieu nous place à un endroit qui est fait pour nous. Ou Dieu veut nous placer à un endroit qui est fait pour nous. Comme pour cette clé, on est tous différents et on ne peut pas tous faire ce que les autres font. Dieu nous place à un endroit qui est fait pour nous. Et comme avec Esther, il dirige les circonstances pour que nous puissions agir. Mais peut-être que notre part à nous, c'est de nous engager devant lui à accomplir ce à quoi il m'appelle. Quoi qu'il m'en coûte. Et je pense que c'est ça le plus dur. Quoi qu'il m'en coûte. Suivre Jésus, entrer dans mon appel, si ça ne me coûte rien, c'est facile. Mais ce n'est pas une aventure extraordinaire. Mais si ça me coûte, bah, ce sera un peu plus difficile. Puis c'est des fois lâcher ces sécurités-là. Et je crois que Jésus a aussi repris ce modèle d'Esther qui allait jusqu'au bout, quoi qu'il lui en coûtait, et ça lui a coûté la vie pour nous sauver. Alors marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas simplement un choix qu'on fait du bout des lèvres ou lever la main lors d'un appel. Mais l'histoire d'Esther nous montre ce matin que suivre Jésus, c'est une véritable consécration. Et la consécration, ça coûte quelque chose. Ça coûte. En préparant ce message, je me suis demandé, mais c'est quoi mon appel ? Alors j'ai pas fait une question existentielle non plus, mais je me suis dit, mais c'est quoi le prochain pas que Dieu m'invite à vivre ? Et puis je me suis souvenu de mon Mardoché, notre pasteur stagiaire au bureau, qui est un Mardoché efficace aussi pour nous aider à prendre la hauteur. Et puis il m'avait dit une fois, ah, mais je suis étonné que tu me parles de ça et que tu ne me proposes pas de prier ensemble. Et je crois que pour moi, mon défi, c'est de me dire, mais suivre Dieu dans la prière. Je crois que Dieu m'invite à vivre un pas dans ma consécration en plus, à développer ma vie de prière. Et franchement, c'est facile à faire. Je peux le dire comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je remarque que si je veux que ça marche, ça va me coûter quelque chose. Ça va me coûter du temps, ça va peut-être me demander de revoir des priorités, certainement. Mais je crois que pour moi, c'est là où Dieu veut m'appeler, sur ce terrain-là, de l'intercession, de la prière. Et c'est clair que ça va me coûter quelque chose. Est-ce que je suis prêt à payer le prix ? Je ne sais pas. La discussion que j'ai eue avec Mathieu remonte à 6 mois, une année. Et là, je me suis dit, bah, y a quelque chose à creuser. Je dois développer ma vie de prière. Je n'en ai rien fait. Parce que ça me coûtait quelque chose et je n'avais pas envie. Je crois que cette histoire d'Esther nous montre finalement que Dieu veut nous appeler plus loin. Il y a quelque chose de plus pour nous. Il faut se consacrer et ça va nous coûter quelque chose. J'aimerais vous laisser quelques questions pour terminer. Où Dieu m'a-t-il placé ? Regarde dans le présent, où est-ce que Dieu m'a placé ? Deuxième question, quelle influence m'a-t-il confiée ? Et quel prochain pas ? En l'occurrence, pour moi, c'est un pas dans ma vie spirituelle, ma vie de prière. Pour vous, ce sera certainement autre chose. J'aimerais vous laisser ces trois questions. Peut-être un petit temps de silence pour y réfléchir. Vous pouvez les prendre en photo pour en parler à midi. Où Dieu m'a-t-il placé aujourd'hui ? Quelle influence m'a-t-il confié ? Quel prochain pas ? Je laisse quelques instants de silence et puis je conclurai par la prière. Seigneur, merci pour cette histoire de cette reine Esther. Merci parce que son modèle nous interpelle ce matin. C'est d'être prêt à accomplir la mission que tu as pour nous, même si ça nous en coûte la vie. Seigneur, peut-être que nous réalisons à la suite d'Esther que c'est important d'avoir une vie consacrée à toi. Ce n'est pas juste d'avoir accepté dans notre cœur, d'avoir laissé une place dans notre vie et de venir à l'église tous les dimanches. Mais Seigneur, peut-être que tu nous demandes plus. Tu nous demandes peut-être plus pour plus de bénédictions. Seigneur, notre thème de cette année, c'est appeler à te suivre. Et je te prie, Seigneur, que ce ne soit pas simplement une parole de belles intentions, mais que ce soit l'occasion de nous consacrer tout à nouveau pour toi. Quoi que ça nous en coûte. Je prie pour nous, Seigneur, pour que ton esprit nous parle. Suite à cet exemple d'Esther, à ces questions qui sont posées, Seigneur, permets-nous de faire le prochain pas avec toi. Et peut-être que vous avez des idées en tête. Peut-être que le Seigneur vous parle à ce moment-là. Mais je prie qu'il vous donne aussi la force de tenir cet engagement que vous prenez. Et si vous avez besoin de témoins, des équipiers de prière seront disponibles à l'issue du culte. Mais je prie que ce qui a germé ce matin dans nos cœurs puisse porter du fruit. Au nom de Jésus. Amen.